voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Quelle voie possible pour régler la crise politique en Tunisie? Le débat de ce soir porte donc sur cette crise, mais nous ouvrons le débat juste après cette rubrique.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Noah Cissé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et expert en résolution de conflits. Vous vivez à Ziguinchor, la capitale de la Casamance, dans le sud du Sénégal. L'armée sénégalaise a annoncé en début du mois avoir pris le contrôle de 3 bases rebelles en Casamance. Bonne nouvelle pour les populations de la région?
Écoutez, bonne nouvelle pour une partie des populations de la région, avec des populations qui étaient confrontées à beaucoup de problèmes dans celui de l'errance à travers l'espace sénégambien et qui, par cette opération, bien entendu, retrouvent leur terroir respectif. Pour les populations de Casamance en général, c'est avec beaucoup de circonspection et naturellement quelques réserves qu'on a accueilli ces opérations de ratissage parce que, bien entendu, c'est un peu la crainte d'un retour aux années de braise. Nous étions dans une situation d'accalmie qu'on souhaitait bien voir transcroître en paix définitive.
On parlait davantage d'une situation de ni paix ni guerre.
Oui, et que moi-même je caractérisais sous le vocable de situation de paix armée, parce que nous avions jusque-là, en l'absence d'accord scellé définitivement entre les deux parties, nous avions l'armée sénégalaise qui essaimait la région par les cantonnements. Nous avions également les combattants du MFDC présents dans un certain nombre de zones de la région. Bref, il suffisait simplement qu'il y ait un petit incident pour que ça s'embrase.
Qu'est-ce qui était avantageux pour les populations? Un statut de ni paix ni guerre ou alors une reprise en main de la situation par l'armée sénégalaise?
Bien entendu, je vous dirais que le mieux, c'est précisément que le processus qui est enclenché depuis 7 ans et qui a donné un peu le résultat que l'on sait, ce processus aurait pu se poursuivre avec un engagement décisif des parties prenantes à avancer résolument. Mais j'ai comme le sentiment que, si d'un côté on a laissé cette situation de pourrissement pour en arriver, bien entendu, à cette solution, on peut comprendre que le jeu n'a pas été très clair. On parle de négociation au bout des lèvres, en réalité, les deux parties n'ont pas manifesté l'engagement, la détermination nécessaire pour vraiment se retrouver autour d'une table de négociation. De toutes les façons, aujourd'hui, le dispositif de sécurité permet le retour et certaines ont commencé effectivement à y retourner. Mais en même temps aussi, d'autres ont dû prendre le chemin de l'errance parce que dans cette opération de ratissage, il y en a qui ont été pris entre deux feux. De la même manière, il est à parier qu'avec les récents événements, certaines des populations se repliaient vers des zones beaucoup plus sécures, laissant la place, bien entendu, à l'armée qui sécurise pour le retour d'autres populations.
Est-ce que, de votre point de vue, les zones récupérées par l'armée sont considérées comme sûres aujourd'hui?
Elles sont sûres globalement du fait aujourd'hui de l'absence véritablement de cantonnement susceptible, d'être une menace pour les populations. Parce que oui, il y a les mines. Une affaire, une chose est de procéder au ratissage, de sécuriser. Une autre, bien entendu, est de faire face à la question de la pollution des zones qui ont été libérées. Ça, c'est un problème et je pense que ça va être les opérations qui vont suivre. Mais l'autre problème également qui peut être un danger, ce ratissage, je l'assimile un peu à un impact sur un essaim d'abeilles, avec le risque que les abeilles se dispersent. On a détruit des camps, etc. Des combattants ont dû certainement prendre la poudre d'escampette avec des armes. Il est à craindre qu'on se retrouve véritablement face à une situation où la criminalité peut être beaucoup plus importante et beaucoup plus diffuse.
Vous faites allusion peut-être aussi au risque de guerre asymétrique avec ces combattants qui ont été défaits et qui sont en débandade aujourd'hui.
Mais oui, la guerre était déjà asymétrique. Depuis le début, elle était asymétrique. Elle va être beaucoup plus diffuse, beaucoup plus certainement compliquée si jamais nous nous trouvons face effectivement à une dissémination de combattants isolés dans une zone dont le contrôle peut être extrêmement difficile. Parce
Donc
qu'il arrivera un moment, il ne serait pas évident qu'on puisse placer un soldat à chaque mètre carré, bien entendu, pour sécuriser la zone.
Est-ce que le MFDC peut aussi aujourd'hui accepter de désarmer et de renoncer au combat pour l'indépendance de la Casamance?
Écoutez, le principe était déjà acquis au niveau du MFDC, toute fraction confondue. Le principe véritablement de négociation. Il y a bien entendu beaucoup de réglages à faire relativement à la question de l'unification, mais je pense qu'on a transcendé cette question de l'unification aujourd'hui pour poser le problème des négociations au cas par cas.
Noa Cissé, merci beaucoup.
Moi, je vous remercie.
Historien et expert en résolution de conflits, vous étiez en ligne de Ziguinchor en Casamance, dans le sud du Sénégal.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et après le conflit armé en Casamance, dans le sud du Sénégal, nous parlons ce soir d'un autre conflit, mais cette fois politique, en Tunisie, qui oppose les deux têtes de l'exécutif qui se déchirent depuis des semaines. Et nous en débattons avec Abdel Tifi, qui est historien et professeur de l'histoire contemporaine du monde arabe moderne à l'Université Paris 3, ici en France. Monsieur Tifi, bonsoir.
Bonsoir et merci pour l'invitation.
Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté donc cette invitation. Également avec nous en France, Atem Nafti, essayiste, auteur de La Révolution à la Restauration, où va la Tunisie. Monsieur Nafti, bonsoir.
Bonsoir.
Et en direct de Tunis, Firas Kefi, notre confrère, il est journaliste et activiste politique. Firas Kefi, bienvenue.
Bonsoir.
Et c'est avec vous que nous allons ouvrir le débat. Le Premier ministre et le Président sont donc en friction depuis quelques semaines. En quelques mots, quel regard les Tunisiens portent-ils sur cette nouvelle crise politique?
Cette crise politique est vécue comme en déconnexion de la réalité du quotidien du commun des Tunisiens qui vivent de plein fouet la crise économique, la crise pandémique, la gestion désastreuse de la crise pandémique sur les derniers mois, le retard sur les vaccins. Donc ils suivent en étant très très en colère et très dubitatifs devant ce triste spectacle entre les deux têtes de l'exécutif qui se chamaillent sur des problème qui ne concerne pas la réalité du Tunisien aujourd'hui.
Donc vous dites que la classe politique semble déconnectée de la réalité. Est-ce que on parlerait aussi d'une certaine irresponsabilité de cette classe politique, peut-être insouciante des défis réels auxquels les Tunisiens font face aujourd'hui?
Tout à fait. Aujourd'hui, on assiste à une guerre entre guillemets de tranchées entre des composants du paysage politique qui ont des idées contradictoires, des visions contradictoires de ce que est la Tunisie, ce qu'elle devrait être, et cet affrontement s'est déplacé des programmes et des visions pour le futur dans un cadre démocratique, dans le cadre des institutions, vers une guerre de position où la coalition gouvernementale et le chef du gouvernement essaie de décrédibiliser le président de la République qui adopte une posture un peu chevaleresque, un peu épique de gardien des institutions. Mais on constate après son élection depuis plus d'un an maintenant que sa force de proposition au niveau politique est assez faible, malheureusement. Donc, cette posture-là aussi se constate et la coalition gouvernementale essaie de jouer sur ça pour renforcer sa position et pour renforcer Rachid Ghannouchi aussi, qui est à la tête de Marwa, le parti qui depuis 2011, entre guillemets, dirige le Parlement tunisien et la vie parlementaire tunisienne. Donc, on est devant une guerre de position
et une guerre de prérogatives aussi,
justement, et c'est là le côté déconnecté justement de ce conflit, c'est que le débat aujourd'hui s'est déplacé vers quand est-ce qu'arrive le vaccin, comment améliorer la situation économique des Tunisiens, vers est-ce que selon tel article cette manœuvre politique est possible ou pas. Quel gouvernement a la Tunisie aujourd'hui? On sait qu'il y a beaucoup de ministres aujourd'hui qui cumulent deux portefeuilles, ce qui est très très compliqué dans une situation de crise comme la vie de la Tunisie aujourd'hui.
Merci.
Donc ce débat institutionnel rajoute encore plus à cette déconnexion.
Merci. Adèle Tiffy, monsieur Tiffy, vous m'entendez?
Oui, vous avez entendu.
Voilà, monsieur Kefi parlait de guerre de tranchées, de tristes spectacles face auxquels les Tunisiens semblent impuissants. Mais est-ce que, compte tenu des conditions, regard des conditions dans lesquelles monsieur Hachichi est arrivé au pouvoir, le Premier ministre, est-ce que vous êtes étonné par cette crise?
Moi, je l'ai dit d'ailleurs dans l'une de vos émissions. Depuis octobre 2011, les enjeux politiques et la vie politique en Tunisie, elles ne tournent pas autour des vrais enjeux d'un pays qui avait vécu une révolution politique. C'est quoi les vrais enjeux normalement ? C'est la transition démocratique avec une adaptation institutionnelle et juridique des lois pour qu'elles s'adaptent à la transition démocratique. La deuxième chose, c'est s'occuper des affaires publiques, de l'économie, de l'enseignement, de la santé, du chômage et tout. Malheureusement, depuis octobre 2011, la vie politique a d'autres enjeux. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit qu'on parle d'une vision différente ou bien de programmes différents. L'enjeu principal de la querelle politique aujourd'hui, c'est le contrôle de l'État, de l'appareil de l'État. C'est ça le vrai enjeu.
Oui, mais la question était davantage de savoir, quand on regarde la façon dont le Premier ministre Hichem Mechichi est arrivé, succédant à Abid Djemli, dont on connaît les conditions dans lesquelles il est parti, est-ce qu'on est étonné de ce à quoi on assiste aujourd'hui?
Bien sûr, on ne s'étonne pas. En fait, d'ailleurs, même le premier gouvernement qui était de M. Farfer, qui a été viré au bout de 4 mois pour des soupçons en fait de corruption, de conflit d'intérêts, sous l'impulsion du parti Nahda, ce même motif existe aujourd'hui parce qu'il y a des doutes qui tournent autour de 4 ministres. Alors que la coalition au pouvoir, qui, je rappelle très bien, c'est Nahda, le parti islamiste, avec un autre parti qui est connu pour sa corruption durant même la période électorale et tout, c'est une alliance un tout petit peu douteuse, et où le président a utilisé le même motif qui avait conduit à la chute de l'autre gouvernement. Il a dit, voilà, vous avez des ministres sur lesquels il y a des soupçons de corruption, pourquoi on ne fait pas la même chose? Il y a autre chose très importante, c'est que au début, M. Mechichi, l'actuel Premier ministre, a été nommé par le président de la République pour constituer un gouvernement apolitique.
Le problème, de technocrate, disait-il.
De technocrate, justement, il lui-même l'a dit. Juste 15 jours après, il a commencé à parler de la ceinture politique qui soutient le gouvernement, qui sont 3 ou 4 partis. Donc, il a dérivé un tout petit peu, il n'a pas respecté. Donc, il s'est présenté sous une étiquette Juste après, il a tourné la veste au chef au président de la République qu'il avait nommé. Et le vrai enjeu, comme je le dis, pourquoi ces partis veulent garder Messisi ? Parce que c'est quelqu'un qui n'a aucune culture politique, qui n'a aucune personnalité politique. Il est sous l'influence des partis qui prétendent le soutenir. Et l'enjeu, comme je viens de le dire, c'est le contrôle de l'appareil de l'État. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que les deux ministères qui ont été concernés, c'est le ministère de l'Intérieur et de la Justice. Et ça, c'est très important.
Merci beaucoup. Monsieur Atem Nafti, quelle lecture vous faites de cette crise entre les deux hommes qui dure quand même depuis près d'un mois?
Excusez-moi, je n'ai pas écouté le début de la question.
Non, je dis votre lecture de cette crise. Monsieur Tiffy semble dire que la faute revient au président de la République. Non, pas au président de la République, au Premier ministre Meschichi, qui aurait-il, d'après lui, retourné sa veste contre le président qu'il a nommé?
Oui, je suis plutôt d'accord avec cette analyse. Mais pour moi, il faut regarder en amont. En fait, c'est une crise de régime. Il faut savoir que la constitution qui régit aujourd'hui la Tunisie a été obtenue au forceps après les événements de 2013. Donc on a eu une série d'assassinats politiques et d'opérations terroristes. Les Tunisiens ont élu une assemblée constituante, a priori pour écrire une constitution en un an. Ça a commencé à traîner en longueur. C'était largement dominé par les islamistes de Naad. Les élections ont abouti à cette majorité relative mais forte de Naad. Et on avait un rapport déséquilibré entre islamistes et non-islamistes. Il y a eu une sorte de... Enfin, après la crise de 2013, il y a eu une sorte de consensus entre les islamistes et leurs opposants pour sortir une constitution qui satisfasse à peu près tout le monde. Et donc, on a créé ce régime hybride où le président de la République est élu au suffrage universel et le chef du gouvernement, pas un premier ministre précisément, est désigné par le Parlement comme ce qui se fait dans les démocraties parlementaires type Royaume-Uni, Allemagne, Italie, etc. Sauf que ce régime a très vite été dévoyé dans la mesure où les personnes qui deviennent chefs du gouvernement ne se présentent jamais aux élections législatives, c'est-à-dire que c'est pas des grands poids politiques, c'est souvent le fruit de négociations entre appareils, absolument. Et ce qui fait que ils n'ont aucune légitimité. En plus, ce qui s'est passé après 2019, on a une assemblée qui...
Mais est-ce qu'aujourd'hui, le problème donc réside-t-il au niveau de la légitimité du Premier ministre Hichem Meschichi?
Tout à fait, parce que si vous voulez, les élections de 2019 ont donné un Parlement...
La légitimité, ce défaut de légitimité vient d'où, étant donné que c'est le président qui l'a nommé, justement?
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que de toutes les façons, il a été nommé il a été proposé par le président. Le président ne nomme pas, il propose si jamais le gouvernement démissionne, c'est ce qui s'est passé avant. Donc c'est pour ça que le président a désigné cette personne-là. Et il y a eu un renversement, si vous voulez, d'alliance. C'est-à-dire qu'au moment où il devait proposer son gouvernement, qui doit être approuvé par l'Assemblée, donc le président ne peut pas décider, il a eu besoin de se retourner vers une majorité politique pour pouvoir passer, sinon le gouvernement ne serait pas passé. Et c'est à partir de là qu'il s'est mis sous la coupe, effectivement, des
deux grands partis. Qui est majoritaire à l'Assemblée nationale.
Narda Ekaltouns, l'autre parti dont parlait M. Eltif, et dont le chef est toujours soupçonné de corruption, et on a eu un rapport délétère de la Cour des comptes sur les conditions dans lesquelles ont été tenues ces élections, où il y a des problèmes.
Mais d'après vous, selon votre analyse aujourd'hui, qui est le problème de ces deux hommes? Qui est responsable de la crise actuelle, d'après vous?
J'ai envie de répondre les deux. Le président de la République ne veut absolument pas transiger, Et le chef du gouvernement se sent fort de ses alliés et continue une fuite en avant. Donc il ne veut pas retirer...
De ses alliés et du soutien de
tout à fait.
Du président de l'Assemblée nationale.
Il ne veut pas retirer ses ministres qui ont eu l'aval de l'Assemblée, encore une fois, en dépit du soupçon de conflit d'intérêts. Et le président ne veut non plus pas transiger. Donc c'est les deux qui sont en train de ne vouloir rien lâcher. C'est une fuite en avant des deux. Mais le problème, c'est que dans ces cas-là, quand il y a égalité, il y en a un qui est un petit peu plus légitime que l'autre. Et en l'absence de cour constitutionnelle, la logique voudrait que ce chef du gouvernement démissionne pour qu'on aille à autre chose.
Merci beaucoup. Et c'est cette démission que refuse le Premier ministre Hichem Mechichi. En tout cas, il dit qu'il n'en est pas question. Messieurs, je vous propose, pour ne pas avoir à vous interrompre, qu'on marque la pause maintenant et on se retrouve pour poursuivre le débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Comment réconcilier les deux têtes de l'exécutif qui se déchirent depuis des semaines en Tunisie? C'est le thème de notre débat d'aujourd'hui avec Adèle Tifi, historien et professeur de l'histoire contemporaine du monde arabe moderne à l'Université Paris 3, Atem Nafti, essayiste, auteur de La Révolution à la Restauration, Où va la Tunisie? Et Firas Kefi, journaliste et activiste politique à Tunis. Monsieur Kefi, la crise est donc là, et avant la pause, M. Nafti disait tout à l'heure que le Premier ministre refuse de démissionner. Chacun reste sur sa position, c'est-à-dire le Premier ministre et le Président de la République. Le bras de fer a été porté par le Premier ministre devant l'instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi. C'est l'instance provisoire dirigée par le président de la Cour de cassation. Cela n'a rien donné. Même difficulté au niveau du tribunal administratif qui n'a pas réussi à trancher cette querelle. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ?
Tout d'abord, sur les différents recours qui ont été portés par le chef du gouvernement, c'est aussi un peu une guerre d'image, parce que Kais Saïd, son background politique, c'est que il est prof de droit. L'absence de cour constitutionnelle fait de lui, d'une certaine manière, la personne qui explique la constitution actuellement. Donc ce sont des manœuvres aussi pour aggraver la situation. Donc aujourd'hui ce bras de fer va continuer. À un moment donné, il faudra que l'une des deux parties fasse un compromis dans ce sens. C'est inévitable. L'UGTT a proposé une médiation à un moment donné, mais
l'UGTC, c'est la principale centrale syndicale.
Voilà, la centrale syndicale a proposé une médiation. C'était pendant le mois de décembre, mais ça n'a rien donné puisque le débat était déplacé de comment on peut résoudre la crise économique, sociale qui existe en Tunisie vers un débat juridique qui a lieu d'être, évidemment, puisqu'il s'agit d'institutions et de définitions de pouvoir de chacun. Il faut souligner aujourd'hui que le revirement de position de la coalition gouvernementale qui s'est attelée à ne pas élire une cour constitutionnelle pendant 5 ans et qui aujourd'hui, devant cette crise politique, revire de bord et dit aujourd'hui c'est une nécessité et on va accélérer le processus. Donc c'est ce qui montre un peu une certaine hypocrisie par rapport à la vision de l'État. Et ce qui, je rejoins aussi Monsieur Altifi qui dit c'est le contrôle de l'État qui intéresse les principaux protagonistes, et actuellement le paysage propose des personnage très très antagoniste qui fait que cette guerre-là continue actuellement et aux dépens des Tunisiens qui n'ont pas aujourd'hui de gouvernement qui soit stable, qui puisse mener à bien la Tunisie sur cette année 2021 qui s'annonce très très compliquée et les chiffres sont alarmants à tous les niveaux. Donc on s'attend à ce que l'une des deux positions recule à un moment donné pour faire dissoudre.
Et vous y croyez ? Le Premier ministre a dit qu'il reste convaincu que le dialogue va aider à débloquer la crise. Est-ce qu'aujourd'hui, une solution politique à travers le dialogue est possible ?
Je pense que l'heure du dialogue arrive peut-être à sa fin, peut-être que sur les prochains jours il doit y avoir quelque chose, un événement pour faire basculer la situation. Peut-être que la démission de Hichem Chichi, puisque, comme l'a expliqué Hat, moins légitime, entre guillemets, aux yeux de l'opinion, qui traîne un bilan de gestion assez médiocre, qui pourrait faire les frais de cette guerre. Mais il faut pas oublier que le processus de nomination de prochain chef du gouvernement va prendre des mois également, ce qui va laisser encore plus d'instabilité dans le pays, dans Merci. Un moment où ce n'est pas la priorité du tout.
Monsieur Tiffy, on se rend compte hein, que le poste de chef du gouvernement est un siège éjectable très instable. Monsieur Kefi parlait tout à l'heure de l'UGTT qui a proposé en décembre un dialogue. Il y a aussi le chef du Parlement, Monsieur Ranouchi, qui a proposé une rencontre avec lui, le président et le premier ministre pour tenter de sortir de la crise.
Oui, mais cette proposition, en fait, Monsieur Rachid Ranouchi, qui est le président du Parlement, juste pour le rappeler, ce n'est pas une fonction institutionnelle, c'est une fonction purement administrative au sein du Parlement, donc ce n'est pas un lieu de pouvoir, mais Rachid Ranouchi l'a transformé en un lieu de pouvoir concurrent. Donc en concurrence avec la présidence, surtout sur le plan de la diplomatie, ça il faut le rappeler. Donc M. Rachid Ranouchi est lui-même un élément de la crise. Et vous savez peut-être qu'aujourd'hui, ou bien ces jours, il y a une motion de censure pour la destitution de M. Ranouchi. Donc d'après les échos qu'on entend, il faut avoir 109 voix au Parlement, et d'après ce que j'ai entendu de l'opposition, ils sont autour de 100 signatures pour le moment. En fait, Rachid Ranouchi lui-même est un élément de la crise. Il ne peut pas, même s'il est chef du Parlement, il a, c'est vrai, envoyé la lettre et tout, mais il est à la tête de cette crise. D'ailleurs, on ne peut pas parler d'une suite positive à cette initiative parce que le président n'a pas répondu. Et hier, Rachid Ranouchi, dans une interview, a dit apparemment le président n'a pas donné sa réponse, donc peut-être donc il n'a pas accepté. D'ailleurs, ça ne va rien résoudre. Moi, je pense que la solution, vu la gravité de la situation qu'on vient de l'évoquer, les amis, soit sur le plan sanitaire, soit sur la dégradation de la notation de la Tunisie, la question de la dette, cette année, c'est une année catastrophique. Tous les voyants sont en rouge sur tous les plans. Moi, ce que je ne comprends pas, M. Mechichi, c'est pas un homme politique, c'est un commis de l'État. Il n'a aucun parti derrière lui, il n'a jamais eu de carrière politique. Pourquoi il ne démissionne pas ?
Donc pourquoi ? Mais pourquoi n'est-il donc pas aussi démis par le premier et le président Kais Saied qui l'a nommé ?
Oui, il l'a nommé, messieurs, il l'a nommé, oui, mais là on est dans l'impasse.
Oui, mais je veux dire, il refuse de démissionner pour l'instant. Je rappelais tout à l'heure que lui, il dit qu'une solution va être trouvée par le dialogue. Mais en attendant, la crise est là. S'il ne démissionne pas, pourquoi n'est-il pas démis aussi par le président ?
En fait, le président ne peut pas. Vous voulez dire pourquoi le président ne peut pas le démettre de ses fonctions ?
Oui. Puisqu'il non, a, non. Même s'il a été, même s'il a été soutenu par la majorité parlementaire.
Oui, en fait, parce que la nomination, ça veut dire sur le plan formel, vient au président de la République. C'est lui qui signe les nominations des ministres. Et là, le président refuse parce qu'il dit qu'il y a des soupçons de corruption et tout. Mais bon,
oui, on le sait, M. Tiffé. Et en réaction, le Premier ministre a aussi limogé lors du réaménagement du gouvernement la semaine dernière plusieurs ministres, la justice, l'industrie, la jeunesse du sport, domaine de l'État ou encore de l'agriculture, qui sont tous pro-Kais Saied. Parce que la question, c'est comment sortir de la crise aujourd'hui ?
Justement, aujourd'hui, moi, je pense que il faut avoir un dialogue national sous l'égide du quartet et des organisations nationales Dans ce dialogue, moi je pense que Messisi, c'est fini pour lui politiquement. D'ailleurs, Nahda, elle est en train de faire des allusions comme quoi, donc pour Nahda, on peut discuter la démission de Messisi. Messisi, c'est un pion, donc ça ne sert à rien.
Merci.
De parler de Messisi. Il y a autre chose très importante.
Vous terminez ?
C'est que ce n'est pas la première crise de ce type, parce qu'on avait vécu cette même crise entre Béziqaï de Sebsi et
le défunt président.
Et Youssef Chehad, quand il était aussi Premier ministre. Mais c'était toujours, comme je viens de le dire, c'est une crise structurelle qui revient souvent.
Merci.
Parce que la question du pouvoir, elle est centrale, malheureusement, actuellement en Tunisie. Et qu'est-ce qui facilite cette querelle autour du pouvoir? C'est les textes et la constitution.
Justement, M. Tiffi, c'était la question que je vais poser à M. Nafti. Est-ce que le problème aujourd'hui ne réside pas au niveau de la forme de l'État, ce régime parlementaire? Il y a un autre pays où on a connu pareille crise, la Guinée-Bissau en Afrique de l'Ouest, où pendant de longs mois, le Premier ministre issu de la majorité parlementaire n'a pas pu s'entendre avec le président Vache, pourtant ils étaient du même parti. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la forme de l'État aujourd'hui en Tunisie ?
Alors, juste avant de vous répondre, je vous donne juste une précision par rapport à une question que vous avez posée tout à l'heure. Le président ne peut pas démettre le Premier ministre. En fait, le maximum qu'il puisse faire, c'est de proposer au Parlement de lui renouveler sa confiance. Et s'il fait ça deux fois et que le Parlement, qui aujourd'hui lui est hostile, c'est le président qui est démis. Donc il prend un risque incalculable. S'il empruntait cette voie-là, il peut lui risquer de se retrouver démis de ses fonctions. Donc ça, c'est politiquement impossible aujourd'hui. Pour ce qui est du régime, je suis assez d'accord avec vous. Si vous voulez, encore une fois, c'est un régime qui a été... C'est deux choses. D'une, c'est un régime qui n'est toujours pas en place. Parce que normalement, il y a la clé de voûte de toute cette architecture constitutionnelle. Elle s'appelle la Cour constitutionnelle. Elle aurait dû être mise en place au plus tard en 2015. Nous sommes en 2021, elle est toujours pas en place. Donc ça, d'une. Parce que si le cas s'était présenté, et c'est ce que répondent toutes les instances qu'a consulté M. Chichi, si le cas s'était présenté, ben, s'il y a un conflit là, de légitimité entre les deux, la Constitution prévoit qu'il fût déféré devant la Cour constitutionnelle qui statue en 7 jours. Donc on n'aurait pas du tout eu ce problème s'il y avait cette Cour constitutionnelle. Après, le problème, c'est que, encore une fois, pour avoir un régime parlementaire, il faut que le chef du gouvernement soit l'émanation du Parlement. Ce n'est jamais le cas. C'est-à-dire que il y a deux choses. Il y a un mode de scrutin qui fait qu'il soit quasiment impossible d'obtenir une majorité absolue. Donc, on est obligé de se mettre autour d'une table et de faire des combinations pour nommer un Premier ministre. Qui, encore une fois, a le plus de prérogatives. Il a encore plus de prérogatives que le président de la République. Et on met une personne qui n'est pas présentée devant le suffrage universel.
Oui, mais étant donné que ce régime, aujourd'hui, tel dans sa forme actuelle, met à rude épreuve le fonctionnement des institutions, que faire ? Ne faut-il pas revoir les textes ?
Encore une fois, même pour réformer ce régime, à moins d'une révolution, même pour réformer ce régime, il faut qu'il y ait une Cour constitutionnelle. C'est une priorité absolue. C'est-à-dire que pour réformer la Constitution, mettons, je ne sais pas, pour qu'elle devienne plus présidentielle ou plus parlementaire, en tout cas, avec une gouvernance plus claire, il faut que les deux tiers du Parlement se mettent d'accord, qu'un texte soit voté, mais après accord de la Cour constitutionnelle.
Monsieur Nafti, en quelques mots, on va bientôt observer une pause. Oui. Vraiment, en quelques mots, s'il y avait les étapes aujourd'hui à suivre pour régler ou débloquer la crise, ce serait quoi, selon vous, étape par étape ?
Une Cour constitutionnelle mise en place, et à partir de là, on peut demander une réforme de la Constitution. Pourquoi pas ? Mais il faut absolument, oui, sortir de là. Et la première étape, mais primordiale, il faut qu'on mette en place une Cour constitutionnelle qui n'a que trop tardé.
Merci beaucoup. Monsieur Kefi, dites-nous, en attendant qu'on envisage, quel que soit le chemin de cette sortie de crise, cela a une incidence forte sur le fonctionnement du pays.
Évidemment, cette crise...
Et la vie quotidienne aussi des Tunisiens, j'imagine.
Évidemment, évidemment, elle affecte tous les jours le quotidien des Tunisiens. Il faut parler aujourd'hui de la gestion aussi de la crise sanitaire qui continue et qu'on constate comme tout le monde que la Tunisie fait partie des derniers États qui va recevoir les vaccins, et ceci augmente la grogne contre cette classe politique qui s'occupe finalement de autre chose que les problèmes des Tunisiens. La solution pourrait être la rediscussion des textes, évidemment, de la Cour constitutionnelle, évidemment aussi, mais pas à n'importe quel prix, puisqu'on a vu sur l'année dernière qu'il y a eu une tentative aussi de nomination de quelques noms qui a eu une vague de contestation par la société civile, puisque certains personnages ne portent pas beaucoup d'idées progressistes, on peut le dire de cette manière-là. Même cette Cour constitutionnelle, il faut qu'il y ait aussi un débat sur les personnalités, mais évidemment que l'achèvement de cette architecture politique doit être faite, et peut-être la rediscussion peut-être du seuil électoral, peut-être Merci. De l'architecture en elle-même sur trois têtes, et refaire peut-être des élections anticipées
pour
dégager un nouveau paysage.
Merci beaucoup, Firas Kefi. On marque une dernière pause.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quelle solution possible face à la crise politique en Tunisie? Trois participants aujourd'hui pour en débattre. Atem Nafti, essayiste, auteur de La Révolution à la Restauration, Où va la Tunisie? Firas Kefi, journaliste et activiste politique, il est à Tunis. Et Adel Tifi, historien et professeur de l'histoire contemporaine du monde arabe moderne à l'Université Paris 3. Monsieur Tifi, vous avez entendu Firas Kefi évoquer la possibilité d'organisation d'une élection anticipée, et vous aussi, dans vos propos, vous parlez de cette motion contre le président du Parlement, Khanouchi, qui pourrait peut-être aboutir à sa destitution. Est-ce que vous êtes favorable à cette élection législative anticipée qui permettrait peut-être de dégager une nouvelle majorité? Monsieur Tifi?
Oui, allô?
Oui, allez-y s'il vous plaît.
Oui, en fait, justement, c'est la Tunisie, elle est dans une vraie impasse. Pourquoi? Moi, je suis favorable, bien sûr, pour des élections anticipées, parce que dans n'importe quelle démocratie, ou même dans un contexte de transition démocratique, quand on est face à une impasse politique et avec la difficulté de former un gouvernement ou quoi que ce soit, et face à une instabilité politique, c'est tout à fait normal d'appeler à des élections anticipées.
Et quelles seraient les étapes pour y arriver? Dissolution du Parlement? Quelles sont les étapes pour arriver aujourd'hui à une convocation de nouvelles élections? Et la Tunisie a-t-elle les moyens de se permettre d'organiser un nouveau scrutin?
En fait, elle n'est pas les moyens. Il y a le contexte du Covid, ça c'est important. Mais il y a autre chose plus importante. C'est que le cadre juridique, les lois qui gèrent l'opération électorale en Tunisie, elle est vétuste, elle est l'un des problèmes. Ça veut dire, si jamais on va faire des élections sur la base du code électoral aujourd'hui, on va refaire presque la même chose. Bien sûr, la répartition, elle n'est pas la même, parce que là, on a le parti libre de Stourien, il est en avance, il est largement en avance par rapport à Nahd, c'est autour de 38-40%, il y a Nahd à 17%, et les autres partis, même si on va faire des élections anticipées, ce parti ne peut pas à lui seul former un gouvernement, surtout que ses relations avec les autres composantes politiques sont un peu électriques. Je ne pense pas qu'il y aura un parti qui va s'allier au parti de Storia pour former un gouvernement. Donc, on va replonger encore dans une autre crise.
Excusez-moi, l'élection anticipée est difficile. Dites-vous, la dissolution du Parlement l'est encore plus. Un vote de confiance, Premier ministre, serait un risque pour le président Kais Saied. Finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution à cette impasse aujourd'hui.
Il y a des solutions. Moi, je pense à un dialogue bien bien sûr nationale aussi, mais je pense qu'on est en train de virer vers la mobilisation dans la rue, comme c'était passé en 2013, pour obliger un changement politique et pour obliger la formation d'un gouvernement de transition ou bien d'un gouvernement de vrai technocrate sans aucun lien avec les partis politiques et qui prépare, qui gère la situation, ça veut dire économique, sanitaire et tout, qui est d'urgence, et les formations politiques avec les organisations nationales et avec les représentants de la société civile, en même temps, on discute de la réforme, de la formation de la Cour constitutionnelle et de la réforme du code électoral et des partis et tout. Sans cela, on ne peut pas s'en sortir. En fait, si on va rester dans une situation, parce que même le président de la République n'est pas favorable à la formation de la Cour constitutionnelle parce qu'il veut garder ce privilège d'interpréter la Constitution. Donc, on est dans une vraie impasse. Le risque, c'est qu'on est en train de pousser la rue à agir et on ne sait pas ce que ça va donner après.
Merci beaucoup. Monsieur Nafti, la sortie de crise, visiblement, n'est pas pour demain.
Non, malheureusement, elle n'est absolument pas pour demain. Et je réponds à votre question pour la dissolution de l'Assemblée. Le seul cas, parce que c'est quelque chose de très difficile, le seul cas, c'est que ce gouvernement démissionne ou soit démis et que le gouvernement qui est chargé après ne passe pas à l'épreuve de l'Assemblée. Donc, en admettant que tout
ce qui sera difficile à accepter pour Enaba,
parce qu'il y a plein de députés, Meschiche est un petit peu aussi arrivé dans ces conditions-là, c'est qu'il y a plein de députés qui sont dans l'Assemblée, qui tiennent à l'Assemblée pour une raison simple, ni politique ni idéologique. Il y a plein de députés qui ont mal à partir avec la justice, qui ont plein d'affaires et qui risquent d'être en prison. Donc, il y a des députés qui voteront pour n'importe quel gouvernement qui se présenterait devant eux. Donc, c'est quelque chose qui est quasi impossible que même si son gouvernement venait à démissionner, celui d'après, peu importe qui va le porter, on va l'élire, enfin on va lui donner la confiance du Parlement pour que les parlementaires restent parlementaires.
Merci.
Donc c'est quand même difficile. Et j'appuie ce qu'ont dit les deux intervenants sur le risque de la rue, parce que ce samedi, le samedi dernier, il y avait le PDL, donc le parti de l'ancien régime, qui a mobilisé ses troupes. Ce samedi, ça va être autour de Narda.
Le parti né des cendres du RCD.
Tout à fait. Et donc là, on risque de revivre un scénario à la 2013 et ça va être compliqué. Le dernier point que je voudrais quand même dire, c'est que si on dissout l'Assemblée et qu'on réorganise des élections, on va avoir peu ou prou les mêmes, le même éclatement et on va juste rajouter une pièce dans le jukebox et ça va recommencer.
Merci.
Il faut changer le mode de scrutin.
Merci beaucoup. Monsieur Kefi, est-ce que c'est juste de comparer au regard de ce qu'on a décrit tout à l'heure la classe politique tunisienne à un peu à celle libanaise?
J'ai pas entendu la question.
Est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui, est-ce que vit la classe politique tunisienne à ce qui se passe au Liban où la classe politique est aussi divisée et incapable de se mettre d'accord sur quoi que ce soit?
Peut-être si on grossit un peu le trait, peut-être, mais peut-être c'est un peu plus complexe que ça, vu la sociologie de la scène politique libanaise et tunisienne et l'origine des conflits et les intérêts. Mais oui, on est arrivé au même blocage d'une certaine manière qui ronge le Liban depuis des années. C'est que, comme on l'a exposé pendant tout le débat, c'est que toutes les issues possibles vont vers un certain blocage à un moment donné. Il faut pas oublier que va aussi essayer de pousser aujourd'hui pour que Rachid Ghannouchi devienne aussi une personnalité entre guillemets présidentiable, faute de l'avoir présenté pour les prochaines élections et de asseoir encore plus son hégémonie sur le mouvement, lui qui a été vivement critiqué l'année dernière et qui aujourd'hui se retrouve comme figure fédératrice de Nahda. C'est un enjeu important aussi pour Nahda, qui évidemment ne va pas négocier n'importe quelle solution. Justement, elle va essayer de sauver les meubles si dialogue national il y aura.
Mais pour vous, comment va se solder ce bras de fer?
C'est très compliqué à pronostiquer. franchement, puisque voilà, les différents personnages ont des intérêts divers, mais peut-être qu'il faudra, je pense que le scénario le plus probable, c'est peut-être une démission du gouvernement prochainement, mais il n'est pas exclu que ce genre de configuration puisse se répéter au futur.
Merci.
Ce mandat va jusqu'en 2024. On peut malheureusement considérer que déjà la moitié a été perdue. Pour l'histoire, ça aurait été du temps perdu. Il n'y a eu aucune avancée, ni sur le plan économique, social, sur la santé, éducation. Plein de secteurs qui avaient espoir pour ces élections, les dernières élections, et qui aujourd'hui se retrouvent dans le rouge pour tous les secteurs de l'économie, de la vie de tous les jours.
Merci, monsieur Tiffy. Vraiment, en 20 secondes, comment voyez-vous l'issue de cette tension ?
Moi, il n'y a pas d'issue pour le moment. La seule chose, j'espère que monsieur Messichi va démissionner pour l'intérêt de la Tunisie. Sinon, il va avoir une pression des organisations nationales et de la société civile, même pas de travers les partis politiques, descendre dans les rues pour demander une vraie solution et la dissolution du Parlement.
Merci beaucoup, Adel Tiffy, historien et professeur de l'histoire contemporaine du monde arabe moderne à l'Université Paris 3 ici en France. Merci à vous, Atem Nafti, essayiste et auteur de La Révolution à la Restauration. Où va la Tunisie ? Vous étiez également en ligne de Paris. Et merci à vous, Firas Kefi, journaliste et activiste politique qui participait à ce débat de Tunis. Retrouvez l'émission en rediffusion à 23h, heure de Paris et de Tunis, 22h, temps universel. Merci à Hugo Vening et Hugo Vallière, pardon, et à Edouard Ning pour la participation à cette émission.